إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، الموضوع في هذه الجلسة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، الموضوع يتعلق بالصبر. وفي بداية هذه السنة الدراسية لابد أن نعرف ونعلم أن الصبر نعمة من نعم الله، وليس للإنسان فيها فضل إلا أنه من فضل الله سبحانه وتعالى. À l'entame et au début de cette année scolaire universitaire, ou année où les cours seront donnés dans cette mosquée, Inch'Allah, nous allons parler de la patience. La patience qui est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'être humain n'a aucun mérite. Il n'a aucun mérite, bien entendu, si ce n'est celui de faire l'effort d'être patient. Mais le bienfait, ou disons le mérite, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sachons que pour ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut tout d'abord être reconnaissant. Il faut reconnaître ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge ce bienfait. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous me remerciez, je vous rajouterai, sous-entendu, de mes bienfaits, et si vous m'écroyez, et m'écroire, et de rejeter, mon châtiment sera sévère, sera fort. Et le mot m'écroire en langue arabe est intéressant, car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « wala in kafartum », l'origine de ce mot, et c'est intéressant d'utiliser toujours l'origine des mots, surtout dans le mot kafara, car ça revient au sujet du takfir. Celui-ci est un kafir, on dit souvent. Il faut savoir que le mot kafara, dans la langue arabe, est une expression tirée de l'agriculture. Parce que le paysan, lorsqu'il va, il met la graine en terre. Ensuite, il recouvre cette graine de terre. Et c'est pour cela que dans un verset du Coran, on appelle les paysans kuffar. Ça ne veut pas dire cela que ce sont des mécréants, c'est le nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, c'est-à-dire ceux qui recouvrent. Donc le mécréant s'appelle mécréant parce qu'il recouvre la vérité. Il connaît la vérité, mais il la cache. Et c'est pour cela que Al-Jumhur, la majorité des savants, considèrent que celui qui n'est pas, qui ne fait pas la prière, est un mécréant de la petite mécréance, c'est-à-dire c'est celui qui cache la vérité tout en la sachant. Il ne la renie pas, et donc c'est pour cela que c'est l'avis que je retiens personnellement. Celui qui a la conviction que c'est une obligation, ce n'est pas un mécréant dans le sens que cela l'éloigne de la religion, mais c'est un mécréant dans le sens où il a caché la vérité qu'il connaît. Et par fainéantise ou autre, c'est un autre sujet. Donc cette petite parenthèse pour dire, ne soyons pas des mécréants dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bienfait quel qu'il soit, remercions-le et sachons que la patience est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on remercie Allah de nous avoir donné la patience dans une situation, Inch'Allah, dans l'autre situation, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera cette force de patienter. Et le mot, en toujours en revenant à l'origine des mots, le mot sabr dans la langue arabe, c'est le habs. Le habs, donc, moi je conseille aux frères qui vont entamer cette année d'études ici, c'est de toujours, pour faciliter un peu l'apprentissage dans la langue arabe, de se référer aux maghrébins qu'ils connaissent. Car il est toujours très très proche de la langue arabe, si ce n'est, c'est la langue arabe, si ce n'est des voyelles qui sont déplacées de ci, de là. Donc, al-habs, bloqué, emprisonné, incarcéré, contrôlé, c'est ça le mot sabr. Pourquoi tous ces sens-là? Parce que la patience, c'est celui qui a la faculté de contrôler ses émotions. Celui qui a la faculté de contrôler ses passions. Celui qui a la faculté de se retenir, celui qui a la faculté d'être patient et donc d'être endurant dans le terme, dans la longévité, et la patience elle peut être dans l'étude, elle peut être dans la da'wa, elle peut être dans des situations difficiles, comme nous allons voir par la suite les conditions de la patience. Donc la patience, c'est cette capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun d'entre nous de surpasser un événement quelconque, un événement difficile bien entendu, ou imprévu. Parce qu'il peut y avoir des événements qui ne sont pas d'une difficulté notoire, mais que nous avons du mal à accepter car ils sont imprévus. Donc le patient, c'est celui qui sait dominer, et bien entendu encore une fois, avec l'aide d'Allah. Et c'est l'importance toujours de l'étude de l'aqida, de tawhid, c'est de toujours mettre tout notre comportement, tous nos comportements, toutes nos façons de marcher, de boire, de manger, en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et l'aqida, encore une fois, on revient à la source du mot, ça vient du mot aqada, faire un nœud. Comme si on faisait un nœud avec notre cœur sur l'amour d'Allah. On nouait un pacte avec Allah. Dans le mot aqada, c'est se mettre en relation avec Allah, faire un nœud afin que l'un ne se sépare pas de l'autre. Donc nous sommes en perpétuelle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons toujours, lorsqu'on étudie des sujets en religion, les savants aiment bien donner la définition linguistique du mot, ensuite la définition religieuse, c'est-à-dire quelle est l'appréhension, comment les savants nous définissent ce mot-là. Par exemple, Salim, Cheikh Abu Sama Salim Aïd al-Hilali nous dit « Wa habsu nafsi ala ta'atillah bil muhafazati alayha dawman wa li'ayatiha ikhlasan wa tahsiniha ilma » Donc, c'est le fait, dit Cheikh Abu Sama al-Hilali, c'est le fait de contrôler sa personne, donc ce que l'on est, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc se donner les moyens d'aller au terme de cette adoration. Donc, ce en pratiquant continuellement la pérennité de l'action. Et l'intérêt ici de ce mot-là, c'est que quelqu'un qui va se lever, qui va prier par exemple 50 rak'a cette nuit, et qui demain ne priera qu'une raka ou deux. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu, il aime bien que l'on ménage notre corps, parce que chacun a un droit, le corps, les membres de notre corps ont un droit, donc mieux vaut que je fasse tous les jours 11 raka en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela dure. Donc les meilleures des actions sont celles qui sont dans la durée, même si elles sont peu nombreuses. Donc le musulman se doit d'avoir la patience d'aller au terme de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de l'un d'entre vous tant qu'il ne se presse pas. Et on lui dit comment se presse-t-il? Il dit, cette personne dit, j'ai prié et je ne vois pas le résultat, c'est-à-dire le résultat de son invocation. Donc il s'est pressé, il n'a pas été patient. Donc la patience, c'est toujours attendre. Et on doit être sûr, et cela fait partie encore une fois de la aqida, de notre conviction, de notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous a promis d'exaucer notre invocation. Donc on doit être patient. Il y a différentes façons de voir l'invocation exaucée. Soit tout de suite Allah nous donne ce que l'on veut, soit il nous le donne pour un peu plus tard, soit il nous le donne pour le jour dernier, il nous le garde, soit il éloigne de nous un mal identique. Et à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'exaucer, nous nous devons, si nous sommes vraiment musulmans, et musulmans donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience, c'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie de le faire. C'est une obligation. Et même Ibn Qayyim l'a cité, entre autres savants, que c'est une obligation pour chacun d'être patient. Il ne peut pas dire, moi j'ai envie d'être patient, je suis patient, je ne veux pas être patient parce que j'en ai pas les capacités, je ne serai pas patient. Non, il se doit de faire le maximum pour atteindre le degré de la patience. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous incitant bien entendu à la patience, nous dit « Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min in asabathu sarra'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabathu darra'u sabar fa kanat khayran lahu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Étrange est la situation du croyant. Si un mal est toujours, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en tire bien, si on peut dire. Si un mal le touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est meilleur pour lui. Et quand un bien le touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est un bien pour lui. C'est-à-dire que le musulman remercie Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Donc, nous nous devons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vous dit salam alaikum, comment ça va? Si ça va, vous lui dites alhamdulillah. Si vraiment vous voulez montrer que ça va pas, vous dites alhamdulillah ala kulli hal, malgré tout. Mais toujours, il faut que votre langue prononce ce mot qui est alhamdulillah, la louange Allah. Qu'est-ce que l'on a à se plaindre aux gens? Est-ce que quelqu'un peut venir à votre secours? Le seul qui peut venir, qui puisse venir à votre secours, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi laisser Allah subhanahu wa ta'ala et aller vous plaindre à quelqu'un qui ne peut rien pour vous? Ça fait partie des conditions de la patience. Donc, ne jamais oublier ceci. Donc, nous revenons, avant d'entrer dans le vif du sujet, à la patience et à ses conditions. La première condition de la patience, quand on dit condition, c'est-à-dire si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue dans notre patience. Bien entendu, on peut dire on est patient, mais comment veut-on être rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala? Awalan, premièrement, al-ikhlas. Donc cela veut dire que la patience est une adoration comme une autre. Cela veut dire qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par la patience. L'ikhlas, ça veut dire, entre autres, que lorsque je ne patiente pas pour que les gens ils disent « celui-ci, il est patient, il les aime, c'est bien ». Non, je patiente parce que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé. Je patiente parce que celui qui est devant moi, c'est un frère qui est en difficulté, et je n'ai pas besoin de m'emporter devant lui. Et comme le professeur sallam dit, un sourire au visage de ton frère est une aumône. Donc je cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche dans une des rues et un bédouin le tire par son habit jusqu'à ce qu'il soit marqué au cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne et lui sourit et fait la discussion avec lui. Si l'un d'entre nous lui fait ça, il y a tout de suite, permettez-moi l'expression, une droite qui va partir. Donc la patience, c'est de se montrer patient avec ses frères, même s'ils ont un comportement qui ne sied pas, tout en cherchant la récompense d'Allah. C'est très important. Deuxièmement, comme nous avons dit tout à l'heure, ne pas se plaindre. C'est très important. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith que je ne connaissais pas et qui est frappant, qui est apporté par l'imam Hakim. C'est un hadith qudsi, un hadith authentifié par Abu Usama entre autres, qui dit, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, si j'éprouve mon serviteur croyant, et qu'il ne se plaint pas à un autre, je le libère de ce de quoi il se plaint, et je lui change une chair meilleure que sa chair, un sang meilleur que son sang, ensuite il poursuit ses activités. C'est-à-dire, s'il était malade, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera meilleure santé. S'il était pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera meilleure fortune. Donc c'est un hadith grandiose, mais à condition qu'il ne se plaigne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a, ils sont toute la journée en train de pleurer. Et pourquoi ils pleurent? Alors que ceux qui sont en face de lui ne peuvent rien pour lui, premièrement. Deuxièmement, cela peut les pousser vers le sujet de l'riba ou l'namima. Pourquoi? Parce qu'il va parler, un tel il m'a fait du mal, un tel ceci. Donc là, c'est le riba, c'est-à-dire parler en l'absence de quelqu'un. C'est parler de quelqu'un de ce qu'il n'aime pas. Donc même si tu entends te plaindre, et même si tu te plains à juste titre, tu as parlé en tort de ton frère. Et cela fait que moi, la prochaine fois, quand je vais voir ce frère, qui peut-être pour la première fois glissé, eh ben mon regard va être différent. Et j'aurai un préjugé sur lui. Le fautif, c'est toi qui es venu te plaindre auprès de moi. Donc il ne faut pas se plaindre. Il faut essayer toujours de se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Levez-vous le dernier tiers de la nuit. N'oubliez jamais le hadith qudsi où il est cité que le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel. Et il dit, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque, j'exauce ses prières, y a-t-il quelqu'un qui implore mon secours, je le secours. Pourquoi on va pleurer à des non-musulmans, on va pleurer à des gens qui n'ont aucun moyen de nous secourir? Celui qui ne peut pas se marier, celui qui ne peut pas payer ses dettes, celui qui peut vous aider, le seul qui peut vous aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le sens du hadith, votre destin, dans le sens des biens qui vous sont écrits, court derrière vous plus que la mort vous court derrière. C'est-à-dire, ne portez pas le souci de ce que vous allez manger demain. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, si vous faisiez confiance à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il vous nourrirait comme il nourrit l'oiseau. Le matin, il part le vent creux. Et le soir, il rentre le ventre repu. Shabhan. Il n'a ni impôt à payer, ni quoi que ce soit. Il n'a ni patron à voir. Il ne sait même pas où il va chercher sa nourriture. Mais quand il sort, il va manger, il va ramener de la nourriture à ses petits. Parce que il fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est une gifle pour nous de dire, moi je suis en train de construire pour l'avenir de mes enfants. Moi je suis en train de construire pour ceci. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'agir. Le bédouin qui est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je mettre ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou attacher ma chamelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attache ta chamelle, puis mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut faire le maximum et ensuite attendre le résultat d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas je reste assis et j'attends que l'argent me tombe du ciel. Omar radiallahu anhu est rentré dans la mosquée et tous les matins il voyait quelqu'un qui restait dans la mosquée. Et il a questionné celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, celui-ci s'est consacré à l'adoration d'Allah et c'est son frère qui subvient ses besoins. Omar radiallahu anhu a dit, son frère est meilleur que lui. Ensuite il est parti avec sa fameuse baguette, il l'a frappé, il lui a dit, sors, travaillez, il ne descend du ciel ni or ni argent. Ça veut dire subviens à tes besoins. Et c'est dans ce affaire, il y a une forte leçon à nos frères, je ne sais pas si ça existe en Belgique érémistes ou smicards qui ne veulent pas travailler, qui reposent sur les autres, qui se reposent sur les autres, qui tendent la main en un musulman. Un certain savant ont dit qu'on n'a pas le droit de profiter du smic, on n'a pas le droit de profiter du érémiste quand on est en bonne santé. Si on n'a pas trouvé de travail, alhamdoulilah, on est obligé. Mais si on a trouvé, on ne peut pas. On se doit d'aller travailler. Car cela n'a que des aspects positifs. Premièrement, l'aspect positif, c'est que ça habitue la personne à travailler. Donc il n'est pas feignant. Deuxièmement, il y a un bol d'air pour sa femme. Hein, lorsqu'il est 24 sur 24 à la maison, il y a des tensions qui peuvent naître. Troisièmement, c'est le bon exemple pour ses enfants. Pour que les enfants prennent l'habitude de voir leur père le matin partir au travail, le soir rentrer. Donc il n'y avait que des aspects positifs. Donc le musulman ne doit pas se plaindre, surtout aux non-musulmans. On doit être fier de ce que l'on est. Le musulman doit être fier d'être musulman, et cette fierté implique qu'il ne doit pas tendre sa main. Sauf si Allah Alab n'a aucun moyen, et c'est soit cela, soit aller voler. Dans ce cas-là, Allah Alab, que Dieu l'aide. Mais qu'il dort à midi, et puis ensuite il va pointer, ou que c'est sa femme qui va travailler, cela n'est pas digne d'un musulman. Donc, et cela fait partie aussi de la patience, c'est-à-dire combattre sa personne et l'obliger à se lever, l'obliger à vaquer à ses besoins. Ensuite, il faut que cette patience-là soit au moment propice. Il ne suffit pas de dire que je suis patient, là on est assis tous, on est tous des patients en puissance. Mais la patience, c'est celle qui, lorsque le mal vous touche, elle se manifeste. Nous avons un hadith intéressant qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait le cimetière et il a trouvé une femme qui était en train de pleurer sur une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sois, crains Allah subhanahu wa ta'ala et sois patiente. Vu qu'elle était de dos, elle n'a pas vu que c'était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui a dit, éloigne-toi de moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ensuite, on a rappelé à cette femme, on a dit, attention, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était devant toi. Et donc, on dit, dans le hadith, il dit, il lui est arrivé comme si la mort l'avait touchée. Elle tremblait de tout son corps. Elle avait pris conscience qu'elle avait mal parlé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas été patiente. Donc, elle s'est tout de suite dirigée vers la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucun garde, comme il est dit dans le hadith. Et elle est rentrée directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, la patience, c'est lorsque tu es atteint par le mal. C'est pas après. C'est quand on est touché que l'on attend d'être patient. Ou sinon, si j'ai fait une faillite la semaine dernière et aujourd'hui je parle posément, bah, tout le monde est patient. Si j'étais malade il y a un an, maintenant je parle de la maladie avec... Mais comment je me suis comporté quand j'étais malade? Est-ce qu'à chaque fois quelqu'un me rendait visite, je disais, ah, j'ai mal à ces médecins ou ceci, ou je disais, alhamdoulilah. Donc, la patience, c'est quand on est touché par ce qui nous arrive. Et nous arrivons dans le vif du sujet, ce sont les domaines que la patience peut toucher. Donc ici, en l'occurrence, dans notre sujet, nous avions trois points essentiels. Mais je vais en citer un peu plus, Inch'Allah. Les trois points, c'était dans comment percevoir la science, et l'ultisème, ça peut vouloir dire comment être persévérant et patient dans mon application de la religion, mais c'est aussi comment être persévérant dans mon acquisition de la science. Un al-tazima bi-adabi talab al-ilm, par exemple. Ensuite, al-da'wa. Donc, il y aurait trois aspects. C'est-à-dire, je suis patient lorsque j'apprends. Ensuite, je suis patient pour mettre le tout en pratique. Et ensuite, je suis patient pour faire parvenir le message. Donc, toujours en relation avec l'étude. Donc, c'était grosso modo le thème, ou une partie du thème qui était visé. Mais je vais essayer d'élargir un peu plus le sujet, parce que je pense que il est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, de nouer la personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, Nous avons besoin de patience dans l'étude, nous avons besoin de patience dans la pratique, nous avons besoin de patience dans la prédication, mais aussi nous avons besoin de patience dans la religion. Et celui qui n'est pas patient dans la prière, celui qui n'est pas patient dans ses actes religieux, comment voulez-vous qu'il soit patient dans sa science? Il y a une image qui est très forte, c'est celle de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait que on s'aligne, que l'on ait épaule contre épaule, cheville contre cheville, talon contre talon. Si on n'arrive pas à se supporter pendant 5 minutes, comment voulez-vous qu'on se supporte pendant des heures, pendant des jours, pendant des nuits, pendant des siècles? On n'arrive pas à se supporter dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala, on n'arrive pas à supporter son frère. Donc comment voulez-vous qu'à l'extérieur, nous puissions transmettre cette atmosphère positive que nous avons créée dans la mosquée? Puisque à la mosquée, nous sommes déjà, pendant toute la prière, il y en a un qui a pas soufflé, celui-là me sert, celui-ci... Le professeur Hassan disait bien, clairement, lorsqu'il se retournait, il disait à ses compagnons, « Je vois le shaitan passer entre vous. » Donc shaitan passe entre eux. Il divise les musulmans. Donc pourquoi vous le laissez passer pendant la prière? Donc c'est un des aspects qui montre que si on veut être patient dans la science que nous allons acquérir, il faut d'abord que nous construisions notre patience dans l'adoration de tous les jours. Tout d'abord, il faut être patient dans tout ce que il peut nous arriver. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى dit: Nous vous éprouverons par quelque chose, بشيء من الخوف, du domaine de la peur, والجوع, du domaine de la faim, خوف والجوع, ونقص من الأموال, une diminution de vos biens, des âmes, c'est-à-dire que ça peut être des enfants, des épouses, wasamarat, c'est les fruits, etc. Wabashir al-sabiri, donne la bonne nouvelle aux patients. Alladhina idha asabatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un mal, par une calamité, ils disent: nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous repartons. Oulaika alayhim salawatun min rabbihim. Cela mérite des prières d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahma, miséricorde, wa oulaika humul muhtadun, et cela sont les bien guidés. Comme disent les savants, alhamdulillah, louange à Allah qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Nous vous éprouverons par quelque chose. شَيْءٍ الْتَبْعِيدِ, c'est-à-dire un peu de peur, un peu de faim, un peu de calamité. Et il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ. S'il a dit بِالْخَوْفِ, c'est la peur terrible, totale. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve suivant notre foi et suivant notre capacité à encaisser ce qui va nous arriver. Donc, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala déjà ne nous éprouve qu'en fonction de ce que nous pouvons tolérer. Donc, chaque personne d'entre nous qui est éprouvée doit savoir cette règle essentielle. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'éprouvera jamais, et cela fait partie de sa justice, plus qu'il ne peut tolérer. Et cela veut dire, entre autres, qu'il doit supporter ce qui lui arrive. Parce que sinon, cela viendrait à dire que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Donc c'est une notion très importante à comprendre. Allah n'éprouve une personne qu'en fonction de ce qu'elle peut supporter. Et donc s'il ne l'éprouve qu'en fonction de ce qu'il peut supporter, il se doit de le supporter s'il se dit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, patienter face aux tentations. Nous avons nombre d'anecdotes, d'histoires dans le Saint-Coran. Parmi elles, par exemple, l'histoire de Youssef alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par la femme de l'Aziz. Donc, il a eu une épreuve. Donc nous, quand on est dans l'enseignement, ou vous, lorsque vous essayez de convaincre un jeune face au plaisir de la chair et la tentation de la chair, ramenez l'argument qui s'y est, c'est-à-dire l'histoire de Youssef alayhi salam. Donc le Coran parle de tout cela. C'est pour cela que certaines sectes, que je n'aimerais pas, ont réfuté le fait que Sourat Youssef fasse partie du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il y a une romance, une histoire de chair, une histoire d'adultère dans le Coran. Et le Coran ne parle pas de ces choses-là. Au contraire, le Coran est venu pour nous parler de ces choses-là. Parce que s'il nous parlait que des choses que l'on peut supporter, pourquoi nous parler de cela ? Donc, s'il nous avait envoyé comme messager un ange qui ne commette pas d'erreur, pourquoi nous envoyer un ange ? Donc, il a ramené un messager, qui était un être humain, qui était passible de commettre des erreurs, mais bien entendu pas dans la révélation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à connaître notre religion, bien entendu, à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, mais il y a des choses, je n'ai pas le droit de dire, je vais griller le feu rouge par exemple, parce que je n'ai pas envie de rater la prière du Maghrib, et à côté de là je vais causer un accident, et en disant que c'était pour moi une adoration. Il y a des réglementations à suivre, et on se doit de les suivre. Ensuite, il y a la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une patience qui vient avant, une patience qui vient pendant, et une patience qui vient après. La patience qui vient avant l'adoration, c'est celle de se consacrer à ce que l'on va faire. Par exemple, je me dis, avant de faire ce que j'ai envie de faire, ce soir, il faut que je lise, par exemple, 50 versets du Coran. Donc, peut-être, pendant toute une partie de soirée, Shaitan, il va venir me dire, tiens, sur l'autre chaîne, il y a un match de football, ou sur ceci. Donc, il va y avoir un combat entre la force qui m'incite à aller vers mon programme religieux du jour, et celle qui va m'inciter à m'en éloigner. Aussi, la correction de mon intention. Donc c'est pas parce que je suis au milieu de frères que je vais dire, tiens, je veux bien lire le Coran pour qu'ils disent, celui-ci, il récite bien, on va en mettre un prof, ou on va en faire notre imam, etc. Donc ça vient avant. Ensuite vient l'adoration en elle-même. Et là, il me faut être patient dans l'adoration. Donc toujours dans la purification de l'intention, tout en pratiquant, je ne dois pas m'occuper du regard des autres, de ce que vont dire les autres, et aussi je dois être patient. Si je dois lire 50 versets, il me faut être patient. Ça se peut que je lis 3 versets, 4 versets, et je vais penser dans ma tête, oh, il faut que j'aille faire mes courses parce que demain j'aurai pas le temps, etc. Non, ça c'est toujours Shaitan qui vient essayer de nous dévier de nos objectifs, donc il faut que je me donne la patience d'aller à la fin, au terme de mon objectif. Ensuite, il y a la patience après. La patience après, c'est il se peut que j'ai bien prié, que j'ai bien lu, que j'ai fait quelque chose de bien, mashallah. Quelqu'un y vient, il fait un repas dans une mosquée, qu'Allah le récompense. Après, tout le monde lui dit le repas, il était bien, on te remercie. Après, il va peut-être gonfler, il va dire tiens, tout le monde dit que c'est mon repas, il était meilleur que d'autres, et Shaitan va rentrer par ces portes-là. Et il va perdre le bénéfice de son action. Donc, même après son acte, il doit contrôler ses émotions. Il doit contrôler ses intentions. Donc, il faut être patient avant l'acte, pendant l'acte, puis après l'acte. Ensuite, il y a la patience dans la da'wah. Nous savons que les messagers ont été éprouvés. Regardez notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est encore pendant la période mécoise. Il prie devant la Kaaba. Et certains des Qurayshites, ennemis de l'islam, prennent une panse de chameau et ils viennent, un plein d'excréments bien entendu, et ils viennent, ils la posent sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement lourd qu'il ne peut pas bouger. Et sa fille Fatima vient le défendre. Elle enlève cela et elle insulte ceux qui font du mal à son père. Y a-t-il quelque chose de plus douloureux pour un homme que d'être humilié devant ses enfants? C'est quelque chose d'humiliant à un point extrême. Ensuite, vous savez toutes les histoires, les anecdotes des messagers de Ayyub alayhi salam, comment il a été éprouvé dans la maladie, il a perdu la santé, il a perdu tous ses biens, puisqu'il a été patient, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné mieux que ce qu'il a perdu. La patience de Youssef alayhi salam, tout d'abord a été séparé de son père, de sa famille, puis a été jeté en prison lorsqu'on l'a accusé d'avoir tenté une aventure avec la femme de l'Aziz. Toujours est-il, ce sont des épreuves. Et celui qui veut faire la da'wah, c'est-à-dire qui veut prêcher la religion, qu'il sache d'avance qu'il va être éprouvé. On va remettre en cause sa parole. On va lui rejeter au visage son passé. Et ça, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont fait des choses condamnables, bien entendu. Mais à partir du moment où ils se sont repentis d'un repentir sincère, on n'a pas besoin de leur rejeter au visage le passé qu'ils ont eu. Faites attention aussi, et surtout, c'est quelque chose qu'on le retrouve dans certains mosquées, il y a des sœurs, mashallah, qui ont eu un passé, hélas, condamnable, bien entendu, mais qui se sont repentis d'un repentir sincère, qui se sont mariés avec un frère sérieux, etc., qui elles-mêmes sont sérieuses, alhamdoulilah, mais lorsque le frère les voit passer avec son époux, il dit, tiens, ben celle-là, hier, elle était comme ça. Vous avez commis un très très grave péché. Ceux qui disent cela ont commis un très très grave péché. Son passé est derrière elle. Alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est revenue à Allah. Vous n'avez pas le droit de vous mettre entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ou sinon, si vous avez les épaules larges, comme on dit, préparez-vous à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Aussi, lorsque l'on va faire la da'wah, mais aussi lorsque l'on va enseigner, il ne faut pas se presser dans le sens où on n'a pas à dire « ça fait un an que j'enseigne, ça fait un an que j'essaye de parler à cette personne » et il n'y a toujours pas de résultat. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le jour de la résurrection, il y aura des messagers qui viendront et il n'y aura personne derrière eux. Et pensez aussi d'un autre côté que votre obligation, et l'obligation de chacun d'entre nous, est de faire parvenir le message. Nous n'avons pas une obligation de résultat. Donc la seule obligation qui importe aux musulmans, c'est de faire parvenir le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois a été stressé. Allah subhanahu wa ta'ala disait wa la tahzan alayhim, ne sois pas attristé par eux. Donc c'est-à-dire que ton message, la seule chose qu'on attendait de toi, c'est de leur parler, de leur dire faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut qu'il croit, celui qui ne veut pas qu'il ne croit. Mais vous avez le devoir de faire parvenir la religion. Et tout d'abord, bien entendu, à votre famille. Et comme on parle aussi de faire parvenir la religion, le savoir. Il y a des frères qui ont l'opportunité d'étudier, et il est obligatoire pour eux d'étudier. Bien entendu, la première obligation, c'est l'étude des sciences religieuses basiques. C'est-à-dire, premièrement, connaître la aqida. C'est-à-dire, connaître qui j'adore, pourquoi je l'adore, comment je l'adore. Donc si je connais que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je connais qu'Allah ne ressemble à rien, donc je ne cherche pas à lui donner un exemple, un égal, à partir de là je vais l'adorer comme il sied Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je dois savoir comment faire ma prière, comment faire mes ablutions. Ça c'est des obligations pour tout le monde. Ensuite, il y a des divergences d'école, il y a des sciences complexes, Et là, c'est une obligation pour certains, pas pour tous. Ce qu'on appelle une obligation de suffisance, fardu kifaya. Donc si certains font cela, cela suffit à disculper le reste de la communauté. Mais il y a des sciences aussi dont nous sommes tributaires, nous en avons besoin. Si Allah subhanahu wa ta'ala a donné à quelqu'un une intelligence, un coefficient intellectuel élevé, mashallah, qui a cette capacité d'apprendre que nul autre a, qui peut faire des études de médecine et que la communauté a besoin d'un médecin, s'il ne le fait pas, alors qu'il n'y a personne qui le puisse le faire, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il commet un péché. Donc on a vu, à travers la da'wa, qu'il y avait des frères qui étaient animés de bonnes intentions, bien entendu, qu'ils voulaient apprendre leur religion. Donc ils ont dit, moi je laisse tomber mes études en médecine, je laisse tomber mes études en génora ou autre, pour me consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a besoin aussi de frères qui soient compétents dans le domaine de la médecine, de sœurs, si elles étudient dans des circonstances qui sont respectueuses de ce que l'islam nous a enseigné. Donc, il y a des possibilités et il y a des obligations dans cela. Aussi, il faut être patient avec ses frères. Et cela est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est que certains, lorsqu'ils vont faire la démarche administrative, je vais donner un exemple très basique. Lorsqu'il est devant un non-musulman, comme on dit vulgairement ou familièrement, il y a le Bessalam Alek. Il va presque lui cirer les chaussures, parce qu'il a envie d'avoir un papier. Mais lorsqu'il est devant son frère, c'est un loup. Celui-ci, la foi n'est pas encore rentrée dans son cœur. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons cru. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dites vous êtes musulmans seulement. C'est-à-dire vous êtes dans le premier degré. Vous avez embrassé l'islam en tant que conviction, mais la foi n'est pas encore dans vos cœurs. Il n'est pas digne du musulman. Moi, honnêtement, personnellement, ça m'écœure devant un musulman qui est une serpillère devant le mécréant et qui est un loup devant son frère. C'est écœurant et c'est repoussant. On doit être fier devant le non-musulman et on doit être un agneau devant ses frères. Même si mon frère me gifle par erreur, je ne dis rien. Et Inch'Allah, je serai un exemple pour le guider. Mais hélas, lorsqu'on a perdu les valeurs de l'islam, et qu'on cherche un attrait matériel, et donc à la religion, disons salam alaykoum. Ensuite vient la patience dans l'étude, et c'est une partie de notre sujet. La patience dans l'étude, la première chose bien entendu, encore une fois, c'est de purifier son intention. Je vais étudier. Je ne veux pas étudier pour que demain il dit il est imam, pour demain dire il connaît le Coran, pour que demain il se dise ceci ou cela, mais je vais étudier parce que je me dis c'est une des portes, inshallah, qui va faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. C'est une des portes qui va faire que je vais aider mon prochain. C'est une des portes qui va faire que je vais connaître ma religion. Premièrement. Deuxièmement, celui qui veut étudier, il doit être humble. Il doit savoir qu'il ne sait rien, et même s'il sait pratiquement tout, il ne sait rien. Nous avons l'exemple d'un nombre d'imams qui, sur leur lit de mort, étudient encore. Sur leur lit de mort, ils appuient leurs élèves et leur disaient « écris tel hadith, écris telle chose ». Donc nous devons avoir exemple en ces imams qui nous ont précédés. Ensuite, lorsque on vient dans une école, et lorsqu'on va voir un cheikh, quel qu'il soit, on a un engagement avec lui. Et on doit respecter cet engagement. Il y a un emploi du temps, donc il faut être à l'heure. Attention, ce que dit le professeur Al-Sallam, parmi les signes de l'hypocrite, lorsqu'il donne un rendez-vous, il n'est pas à l'heure. Donc je vais à l'école, je suis à l'heure. C'est pas parce que c'est l'école religieuse que je ne suis pas à l'heure. Donc je respecte, et c'est une forme de respect pour le professeur. Et qui dit respect pour le professeur, surtout s'il est imam, c'est un respect pour les messagers. Et c'est un respect pour le professeur Salam qui dit « Les savants sont les héritiers des messagers. » Donc attention, nous sommes en train de manquer de respect aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce sont des héritiers. Donc à chacun d'entre nous de voir sa relation, se dire « Si j'étais au temps du professeur Salam, est-ce que j'aurais fait cela ?» Puisqu'il est l'héritier, je dois le respecter autant que je l'aurais fait avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le professeur, bien entendu, doit prendre en considération les disparités de niveau entre les élèves, et ça, inshallah, c'est un des objectifs qui est donné par chaque professeur conscient de son activité. Donc il y a la patience dans comment prendre la science. Donc je dois m'armer de patience, bien entendu, de bonnes intentions. Ensuite, lorsque je vais étudier, je dois être patient. Patient, c'est-à-dire que même si l'erreur vient du professeur, je dois être digne. Je dois, à la fin du cours, parler en tête à tête avec le professeur, et non pas devant tout le monde, jouer celui qui en connaît plus. C'est un manque de respect pour le professeur. Donc j'attends la fin du cours, sinon je lui fais passer un papier pour lui dire qu'il a commis une erreur. Et ensuite, lorsque j'ai acquis le fruit de mon savoir, je le fais parvenir. Et dernièrement, nous avons l'honneur à Paris d'avoir Cheikh Soudaïsi, hafidhahullah, et il nous a donné des conseils dans ce domaine, et dans le savoir. Et il nous a dit, je vous conseille aussi d'utiliser tous les moyens qui sont mis en votre disposition. Tout à l'heure, j'entendais parler de traduire, d'afficher, donc la revue, le livre, la traduction, mashallah, ce sont toutes des méthodologies, mais quand même, c'était Cheikh Soudaïs, aussi d'utiliser l'internet pour faire parvenir la da'wa au plus grand nombre de personnes. Toute personne qui pianote le soir sur internet ou la journée parler de n'importe quoi, au moins qu'il pense à consacrer un peu de temps à la da'wa, un peu de temps pour sauver ses frères égarés, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Wallahu ta'ala as'al an yuwaffiqa kullam minna wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.